Courant d'air
au-delà des frontières.
De plus en plus nombreux sur les routes pour découvrir le monde, certains voyageurs partent très simplement avec un sac à dos et font du stop. D'autres partent en voiture, en bus, en avion. Bon, cette semaine, je vous propose un numéro consacré au voyage d'Ivan. Avec sa compagne, ils sont partis de Bretagne et on roulait jusqu'en Chine à vélo. Ivan, tu vas nous parler de ton périple que tu as effectué en 2007-2008. Tu es parti de Bretagne à vélo et donc avec ton amie Amélie, vous êtes allé jusqu'en Chine. Vous avez traversé l'Europe et puis l'Asie. Est-ce que ce voyage était organisé? Est-ce que vous avez planifié les choses ou est-ce que c'était plutôt, comme qui dirait, à l'arrache?
On va dire que c'était plutôt à l'arrache, même si c'était un peu un projet qui nous tenait à cœur à tous les deux. Donc on y a pensé à peu près un an et demi à l'avance. On s'est préparé rapidement en faisant un petit voyage en Bretagne, en faisant un petit voyage en France de 3 semaines. Et puis ben, on se sentait partant, donc on s'est dit allez on part, on traverse l'Europe et puis on verra bien après. On avait une petite idée quand même, c'était de partir vers l'Asie. Et donc on s'est équipé en fonction de ce grand voyage qui allait finalement durer 15 mois au final.
Vous êtes parti dans un état d'esprit un peu particulier, quand même un peu alternatif.
On était tous les deux à la fac de Rennes, à Rennes 2, en fac de musique. Et donc, on a participé à l'époque à différentes manifestations qui ont lieu quand même régulièrement à Rennes. Et donc, c'est un petit peu là, à 20 ans, qu'on s'est forgé nos convictions politiques. Qu'on s'est intéressé à l'écologie pas mal, donc on participait au Vélorussion de Rennes, on faisait pas mal de vélo aussi à travers ça, et donc c'était avec un état d'esprit un peu porté sur l'écologie qu'on a choisi le vélo comme moyen de transport, et aussi parce que c'était pas très onéreux, donc ça permettait de partir même sans avoir beaucoup de fonds quoi.
Quand on entend un voyage à vélo aussi long, en plus vous avez quand même finalement fait 17 500 km sur vos vélos, on a l'impression qu'il faut être en super condition physique, qu'il faut faire beaucoup de kilomètres dans la journée. Comment ça s'est passé effectivement pour vous ?
Bon, on est un petit peu sportif, mais quand même pas trop non plus. Donc non, faut pas forcément beaucoup d'entraînement. D'ailleurs, je pense qu'on était les plus lents de tous les voyageurs qu'on a rencontrés dans notre voyage. Donc bon, on avait un petit peu l'habitude de se déplacer à vélo en ville, on avait fait quelques petites expériences avant, mais je pense que c'est possible pour à peu près tout le monde, hein, puisqu'on décide nous-mêmes quand on a envie de s'arrêter, quand on est fatigué, et donc du coup ça me paraît accessible finalement à beaucoup de gens de partir en voyage à vélo comme ça, physiquement c'est pas un défi non plus. Voilà, hors de portée.
Pour faire un tel périple, est-ce que tu dirais qu'il faut quand même être au maximum sur la même longueur d'onde ?
Alors nous, on est partis en couple, donc on a réussi, je pense, notre défi. Vaut mieux bien s'entendre, effectivement. Mais alors ça, moi, je suis parti en voyage à vélo qu'avec une seule personne. Et nous, finalement, ça se passait assez bien. Je pense aussi que le fait qu'on soit un gars et une fille était assez équilibrant. Dans le voyage, c'est-à-dire qu'un homme ça fait un peu peur, une femme c'est plus rassurant, ça crée un équilibre à travers nos rencontres et puis au final on se prenait la tête quand même de temps en temps parce qu'il y a la fatigue et il y a le fait qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais au final, dans certaines régions éloignées c'était aussi on était les deux personnes sur les seules qu'on connaissait et donc on comptait énormément l'un sur l'autre, et donc c'était très bien de partir à deux aussi, quoi, au final.
Merci.
Il y a des pays où c'est très facile de rencontrer des gens. C'est vrai qu'entre donc nous, on a traversé l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, puis la Russie avec le Transsibérien, on est revenu. Donc je dirais qu'entre la Roumanie et l'Iran, donc Roumanie, Serbie, et puis la Turquie, l'Iran, et ben dans ces pays c'est très facile de faire des rencontres, les gens sont très accueillants en moyenne. Nous, notre technique, c'était plus d'aller vers les campagnes, parce que dans les campagnes, les gens sont plus surpris de nous voir. Il y a aussi moins d'hôtels, donc les gens le savent et ont plus tendance à nous accueillir. Donc c'est là qu'on a fait de belles rencontres, où on a pu parler avec des gens, rentrer dans des familles. Après, ce qui nous manquait peut-être dans notre voyage, mais c'était un choix délibéré, c'est qu'on n'avait pas de fil rouge. Donc le but, c'était uniquement de voyager et de rencontrer au hasard, comme ça. Et dans certains pays, c'était peut-être un petit peu plus compliqué de faire des rencontres, comme en Chine, comme en Thaïlande, comme en Europe de l'Ouest. Et donc là, peut-être que d'avoir un fil rouge, quelque chose qui nous guide, quelque chose à demander aux gens, ça aurait été intéressant pour aller un peu plus loin.
Pourquoi est-ce que dans certains pays comme la Chine, par exemple, c'était plus difficile de parler aux gens ?
Alors, il y avait plusieurs raisons. Contrairement aux pays musulmans, par exemple, il y avait la religion qui favorisait beaucoup la rencontre, puisque ça faisait un peu partie de la culture, mais aussi de la religion. Il y avait peut-être le côté culturel qui commençait à devenir très éloigné. On avait du mal à se comprendre, la langue était très éloignée de la nôtre. On avait beau essayer de reproduire les sons des mots qu'on lisait sur notre guide de voyage, les gens ne nous comprenaient pas du tout. Et donc y avait ça. Il y avait une première rencontre qui était assez compliquée. Souvent, les gens riaient en nous voyant. Alors, ils nous disaient, vous avez les yeux ronds, vous êtes bizarres. Mais aussi, donc ils n'avaient pas trop l'habitude de voir des Occidentaux. Et donc, la réaction de malaise en Chine, souvent, c'est le rire. Que nous, on ne comprenait pas, puisque pour nous, Français, quand on nous montre du doigt en riant, c'est qu'on se fout de nous, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas, mais du coup, on avait, souvenez, il y avait un petit froid à la première rencontre. On avait du mal à aller au-delà de cette première rencontre, qui était due aussi à notre manière de voyager, le vélo, qui fait que chaque journée, on allait d'un endroit à l'autre, et donc on n'avait pas le temps de rester à un endroit suffisamment longtemps pour faire beaucoup de rencontres. On a fait quelques-unes, mais pas énormément en Chine.
Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent partir à vélo ?
Le premier conseil, c'est s'ils ont envie de partir, de partir. Après, au niveau conseil, c'est sûr que si on part loin, dans des pays lointains, c'est agréable d'avoir un bon matériel, un bon vélo, du matériel solide, du matériel aussi qui peut se remplacer. Donc ça, il y a beaucoup de sites sur Internet, il y a beaucoup de voyageurs à vélo, donc on peut aller se renseigner assez facilement. Peut-être aussi se renseigner sur les climats. Donc nous, on avait quand même prévu à l'avance un itinéraire à peu près qu'on n'a pas complètement respecté, mais qui était fonction des climats, parce que il peut faire très froid à des moments. Et donc nous, on avait prévu aussi le matériel qui correspondait à ça, donc un sac de couchage en plume. Tiens, j'y pense, un réchaud à essence, parce qu'il n'y a pas de gaz à vendre dans les autres pays, donc de l'essence, ça se trouve partout.
Vous êtes quand même parti pendant 15 mois. Est-ce qu'au niveau du budget, il faut prévoir un bras assez long ? Ou est-ce que finalement, avec peu de choses, on s'en sort quand même ?
Ça dépend comment on voyage. On a vraiment été au minimum. Donc on s'en est sorti pour à peu près 5000 euros par personne, en comptant le matériel, les visas et donc le reste, la nourriture, tout ça. On faisait du camping sauvage et on cuisinait nous-mêmes pendant toute l'Europe. On s'est fait beaucoup accueillir en Iran et en Turquie. Et à partir de l'Asie, tout est vraiment pas cher. Donc on pouvait dormir dans des hôtels, manger au restaurant pour presque rien. Mais on faisait très attention, on n'achetait jamais rien de supplémentaire. Mais je pense que c'est possible pour tout le monde en France, en faisant attention pendant quelques temps, quelques années, pour économiser un peu d'argent, de partir longtemps en fait à vélo.
Très étroite, petite boîte, faite en tiki-taki, petite boîte, petite boîte, toute pareille. Y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki, elles sont toutes pareilles.
Et ces gens-là dans leur boîte vont tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous, tous faits de tiki-taki. Ils sont tous, tous, tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous, tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons font du commerce et deviennent pères de famille. Bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, tout pareil. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en tiki-taki qui sont toutes, tout pareilles.
Quels sont les pays dont tu te souviens le mieux ?
Alors, les pays les plus marquants, je dirais que c'est l'Iran, en premier lieu, l'Inde, la Turquie, et donc peut-être qu'il y a des pays aussi sympathiques comme la Roumanie ou la Mongolie, qu'on a bien aimé. Mais alors, le plus marquant, c'était l'Iran quand même, je pense, pour beaucoup de raisons. C'était une dictature, c'est toujours une dictature, hein. C'est très religieux, mais en même temps très accueillant, des gens très ouverts, très cultivés. On a été accueillis tous les soirs, hein, quasiment, comme en Turquie un peu aussi. Hein. Et donc on a fait beaucoup de rencontres, mais aussi cet état d'esprit, cette dictature, où il y avait cette loi, fallait qu'Amélie porte le voile. On était toujours un petit peu flippés quand même, parce que les gens n'avaient pas beaucoup l'habitude de voir une belle occidentale se balader sur un vélo en plus. Donc la relation aux hommes n'était pas toujours facile, mais en moyenne ça fait plein de belles rencontres, des moments assez forts.
Tu aurais quelques anecdotes à nous raconter ?
Je me souviens d'une fois en Iran comme ça, il y a des gens qui se sont arrêtés au bord de la route pour nous prendre en photo, nous dire bonjour, nous donner de la nourriture. Et puis ils nous ont dit, oh bah vous allez où ? On va à Bandar Abbas, donc c'est dans le sud de l'Iran. Ils nous ont donné leur adresse et puis ils nous ont dit, bah, vous êtes les bienvenus. Dès que vous arrivez, vous nous appelez. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et au final, on est resté 10 jours chez eux. Et ils nous ont même avancé un billet d'avion, ce qui était pas rien pour eux. Parce que les frontières venaient de se bloquer au Pakistan, donc on ne pouvait pas continuer notre voyage comme prévu. Or, on ne pouvait pas non plus retirer en Iran, il fallait retirer à l'avance. Donc ça faisait partie des imprévus qui se sont bien terminés grâce à l'hospitalité des Iraniens, qu'on a remboursé ensuite, mais un an plus tard, quand on est revenu. On a eu quelques peurs aussi dans ce voyage, forcément. Je me souviens des chiens, par exemple, en Turquie, Grèce, un petit peu le nord de l'Iran. Il y a beaucoup de chiens errants, ce qui nous imposait de faire quelques sprints de temps en temps. Donc on allait à fond les ballons pour les éviter. Et sauf qu'une fois, ben, on était à camper. Et là, il y a une meute en milieu de la nuit qui est arrivée. Et pendant 2 heures, ils ont aboyé, grogné autour de la tente. Et donc, à partir de ce moment-là, on était quand même plus prudents sur l'endroit où on allait dormir. Je me souviens de choses aussi sur les différences culturelles qu'on pouvait rencontrer. Par exemple, la loi du tarof, qui est une loi de l'hospitalité. Et en fait, en Iran, pour être poli, il faut refuser 3 fois ce qu'on nous propose. Donc les gens vont nous proposer des fois quelque chose d'hallucinant, en fait, qu'ils n'ont même pas, des fois, à nous offrir. Et puis, ben, si on ne refuse pas 3 fois, ils n'auront pas la possibilité de finalement ne pas nous l'offrir. Donc ils vont nous demander, est-ce que vous voulez manger chez nous ? On va dire non. Est-ce que vous voulez manger chez nous ? Non, 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 non. Est-ce que vous voulez manger chez nous ? Non. Puis bah, finalement, il ne va pas continuer. Donc c'est qu'il n'avait pas envie en fait, qu'on vienne manger chez lui. Mais ça faisait partie de... Même les vendeurs, par exemple, et on va acheter quelque chose. Donc on allait dans les cafés internet, par exemple. Ils nous proposaient régulièrement de ne pas payer. Donc, il fallait insister pour payer. Et ça aurait été vraiment impoli de notre part de dire oh bah d'accord, c'est gentil de votre part de nous offrir. Non, on est obligé de payer quand même.
Mais en franchissant autant de frontières, vous n'avez pas eu des soucis avec les visas? Ça n'a pas été super compliqué, ça, au niveau administratif?
Alors, moi qui déteste tout ce qui est papier et administratif, ce que je peux en dire, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple de voyager et de demander un visa tous les mois ou tous les deux mois que de vivre en France et avoir une pile de papiers tous les jours à remplir pour ci ou pour ça. Donc non, c'était finalement pas si compliqué que ça. Et donc ça consistait simplement à, dans la capitale qui précédait le pays et dans lequel on allait aller ensuite, à faire une demande de visa, un papier à remplir, des photocopies de passeport et des choses comme ça. Et puis une semaine ou deux ou trois après, on avait notre papier et puis c'était bon. Et on n'a jamais eu trop de soucis, finalement, pour traverser les pays. C'était assez simple. Finalement, quand on est français, c'est assez facile d'obtenir des visas pour n'importe quel pays. Ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, on a croisé des voyageurs à vélo qui étaient iraniens, qui avaient voyagé pendant 3 ans, donc qui avaient traversé l'Afrique, l'Asie, même l'Amérique du Sud, je crois, qui avaient un projet avec les enfants très intéressant, où ils faisaient des spectacles. Et donc, ils ont obtenu tous leurs visas dans le monde, sauf en Europe. Donc, malgré tous leurs projets... on leur a refusé l'entrée de l'Europe. Donc c'est quand même beaucoup plus facile en étant européen qu'en venant de l'extérieur.
Quel bilan est-ce que tu tires finalement de cette expérience ?
On a été assez surpris de voir comme dans tous les pays, les gens aspiraient à notre mode de vie. Et nous qui étions, qui avions envie de nous inspirer des cultures traditionnelles qu'on a pu rencontrer, des modes de vie plus simples, qui correspondaient plus à notre manière d'envisager les choses. Ces gens-là, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être comme les Européens, avoir le niveau de vie des Européens ou des Occidentaux en général. Et l'écologie, évidemment, ils n'en sont pas du tout à se poser ce genre de questions. D'abord, ils veulent sortir de leur mode de vie précaire. Et donc, personne ne se pose ce genre de questions à l'heure actuelle. Donc, on s'est dit que ce serait assez compliqué de mettre en place rapidement nos convictions de jeunesse et qu'il va falloir être patient, à mon avis, pour que le monde devienne un peu plus équilibré en termes de richesse et en termes écologiques, quoi. Moi, ce voyage, quand je suis parti, c'était un peu un moyen pour moi de fuir finalement le monde dans lequel je vivais. À 20 ans, j'étais assez angoissé par qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Je voyais la masse d'administratifs, justement, de choses à faire ici. Et j'avais envie de fuir tout ça par le voyage. Et ça m'a vraiment servi à ça. Je crois que je me suis vraiment senti libre sur mon vélo, à ne pas savoir où j'allais dormir. Ça m'a confronté à des choses qui portent plus, qui sont plus de la survie que de la vie. Ça m'a donné encore plus envie de vivre, d'être là tous les jours à chercher à dormir, à manger, simplement à rencontrer des gens. Et ça m'a libéré de beaucoup de peur. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie, en fait. Quand je suis revenu, j'avais vraiment plein d'énergie, plein d'envie. J'avais vraiment l'impression que tout était possible. Parce que de voir des gens qui vivent avec presque rien et qui ont le sourire quand même, d'autres ils l'ont pas, hein, c'est pas tout le monde. Mais il y a des gens qui arrivent à garder dans le monde, malgré un niveau de vie assez, par rapport à nous, assez précaire, à garder cette envie de vivre et de les voir, ça donne envie. Et on se dit que finalement, tout ce qu'on a ici, notre voiture, notre portable, notre énorme maison et tout le confort qu'on a, finalement, on peut s'en passer assez facilement. En revenant aussi, je suis re-rentré à nouveau dans ce monde de français. Des normes de richesse assez élevées. Avec toutes ces peurs qui nous entourent tous ici, ces peurs de manquer, ces peurs de vivre comme des marginaux, de vivre avec peu de choses. et que finalement ça s'est avéré que c'était assez difficile d'appliquer ce mode de vie assez simple ici, parce qu'il y a une pression sociale telle qu'on se sent un peu contraint de vivre un peu comme les autres. C'est pas évident d'avoir un mode de vie original en France.
Concrètement, partir comme vous l'avez fait, c'est possible, mais par contre, il ne faut pas non plus avoir des standards de confort super élevés non plus, j'imagine.
Ouais, effectivement, il faut quand même savoir qu'on ne savait pas où on allait dormir le soir, donc il faut être toujours à l'affût simplement de l'instant présent, de qu'est-ce qui peut se présenter à nous. Et effectivement, si on veut partir avec un petit budget comme on l'a fait, c'est nous, on cuisinait tous les jours en Europe, par exemple, à moindre coût, en achetant du riz et en mangeant ce qu'on avait et en faisant aucune visite. Ça ne nous intéressait pas particulièrement, les visites historiques et tout. C'était vraiment la rencontre avec les gens. Donc, se priver finalement de plein de choses. Il faut savoir aussi que faut partir, effectivement, ça peut impliquer une certaine peur de se dire « Ah là là, je vais partir pendant un an, je ne connais pas les endroits où je vais ». Je ne sais pas ce qui m'attend, mais en même temps, c'est très intéressant, je pense. Moi, je suis parti dans l'esprit que c'était risqué. Donc, je ne savais pas si j'allais revenir. Et ça me rassurait de me dire, j'y vais, c'est quelque chose de très important pour moi. Je vais découvrir des choses extrêmement fortes. D'ailleurs, pour moi, c'est comme une vie dans ma vie, ces 15 mois. Ça paraît extrêmement long, c'est très condensé. Mais en même temps, de partir en se disant, je ne sais pas si je vais revenir, ça fait que chaque moment est plus intense. Et finalement, quand on est en voyage, quand on est devant le fait accompli, on est très prudent, on est très alerte, beaucoup plus que si on était chez nous, où on irait prendre le volant en roulant trop vite, en sortant de chez soi, et on irait faire un accident. Et au final, ce fait d'être alerte, d'être dans l'instant présent, fait qu'un voyage comme celui-là n'est pas si risqué que ça, au final.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette aventure, vous pouvez retrouver le carnet de voyage d'Yvan et d'Amélie sur www.cyclo.écolo.free.fr. On y retrouve l'itinéraire suivi, des revues de presse, leurs récits bien sûr, et puis des photos. C'est tout pour cette semaine. Merci à Yvan, à DJ Bril pour la musique et à Claude pour son soutien à la réalisation de l'émission. Cette émission sera rediffusée lundi prochain. Retrouvez Courant d'air sur www.radiocampusrennes.fr. Et ce qu'Yvan ne nous a pas dit, c'est qu'en plus d'être écolo, il est aussi accordéoniste. Alors on se quitte sur un enterdro à la sauce trad hip-hop gallo de Beatbuet Trio. À la prochaine.
Yo massive, yo j'ai pas y'a que votre micro, yo seul c'est le raga pure mais j'ai pas y'a connaissance, toi genre y'a pas longtemps, toi genre y'a pas longtemps, mais j'ai pas y'a une connaissance. Oh, des gars le matin ayant de bonnes abonnés. Un gel en la larinaire, pas de gel en la larinaire. Y'a White Doll, mais dans la nette, dans un balai m'amener, dans un balai. Thank you.